Dans beaucoup de ports de la Méditerranée, à Istanbul, à Naples, à Gênes, à Barcelone, existent au centre de la ville, non loin du port, des quartiers généralement anciens ou historiques, qui sont les réceptacles des populations en transfert ou à la recherche d'une intégration. Et partout existe un débat sur la gestion et l'avenir de ces quartiers. À Marseille aujourd'hui, ce quartier, c'est le quartier de Belzunce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes confortablement calés sur les 3-8. Voici Belzunce en visage, une collection de récits de vie d'habitants de Belzunce, réalisée en partenariat avec le Théâtre de l'Œuvre.
Tout part et vient d'ici, tu contestes, prépare ton test à manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens, coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon.
D'où sort d'une ronde, Belzunce breakdown.
Retraçons aujourd'hui l'histoire de Solange, ancienne toxicomane prise au piège de l'héroïne. De 1983 à 1991, elle venait acheter sa dose quotidienne dans la rue Tubano, épicentre du deal marseillais dans les années 80. Nous l'avons rencontrée 30 ans plus tard, dans cette même rue Tubano, où elle a tout de suite repéré le perron où elle s'asseyait, à l'angle de la rue Longue des Capucins, pour attendre son dealer. C'est sur ce perron que nous nous sommes assis pour retracer sa vie.
Te souviens-tu de la première fois où tu t'es piqué ?
Alors, la première fois que je me suis piqué, c'est avec des potes de mon quartier, oui. Ben en fait, au départ, ils sniffaient, eux. Donc, ils m'avaient dit, tu veux goûter, oui, ok. J'ai sniffé. Je suis vite, très, très, très vite passée à la seringue. Très, très vite, au shoot. En deux, trois fois, je me suis piquée. J'avais 20 ans.
Le jour de tes 20 ans.
Le jour de mes 20 ans, exactement. Je me suis dit, tu te fais un cadeau. Et ben, je me suis fait un cadeau empoisonné. Mais c'était un peu kamikaze, hein. Il fallait se tanquer une aiguille dans le bras. Oh. Je sais pas si tu vas pas faire une overdose. Il faut du courage quand même. Hein. J'aurais préféré me faire un autre cadeau. Hein. Parce que dans les quartiers, ça, tout le monde plus ou moins en prenait. Donc, pour faire un peu comme tout le monde, je me suis dit, je vais essayer. Mais après, je me suis accrochée. Et encore, je m'en sors à bon compte. Parce que j'aurais pas cru vivre jusqu'à aujourd'hui. Je me voyais mourir très jeune.
Comment es-tu arrivée dans cette rue ?
En fait, moi je suis du quartier nord de Marseille, j'habite la rue Félice Piat. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui étaient toxicaux. Donc, on savait que c'était en ville que ça se passait, quoi, que tout le monde gilait en ville. Donc, on descendait. Voilà, c'était notre point de chute. Hein. Tous les quartiers nord étaient ici, venaient se ravitailler.
Et donc, l'héroïne était de très mauvaise qualité.
Oui, oui, l'héroïne est de très mauvaise qualité. On appelait ça de l'iranienne. Quand on allait voir le dealer, on lui disait « qu'est-ce que tu as ?» Il nous répondait « c'est de l'iranienne ». Bon, l'iranienne, elle était rose, de couleur rose, un peu caillouteux, là, tu vois. Mais enfin, elle était coupée, recoupée pour se faire du fric. Et que tu faisais, mettons, au lieu de 5 paquets, tu en faisais 10, mais ils te mettaient de la mororade dans des morceaux de mur effrités qui avaient la même couleur que les roues, tu vois. Ils grattaient un mur, ils mettaient dedans. Et nous, quand on allait pour se piquer, chauffer, tout ça, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de dépôts, donc c'était vraiment de la merde, quoi, on va dire. Voilà. Et on était beaucoup malades par rapport à ça. Quand on était en manque, c'était affreux.
Tu demandais au dealer s'il t'avait pas coupé un petit bout de mur, quoi.
Quand, mettons, on voyait quelqu'un qui disait bah, « Tiens, viens toucher à lui », on lui disait « Mais tu es sûr qu'il a de la bonne poudre, qu'il nous a pas effrité un bout de mur ?» Voilà, quand on connaissait pas le dealer. Quand d'un coup, il arrivait un mec qui dealait, on lui disait « Mais d'où il sort celui-là » On lui disait « Tu nous as pas gratté un bout de mur au moins ?» Voilà. C'était une expression, donc c'était bien ça. L'héroïne était coupée, avait n'importe quoi. Hein. Voilà. Et nous, on s'envoyait ça, tous les jours.
En le sachant.
En le sachant. On avait une seringue, on l'a gardée toute la semaine. Et bien souvent, quand on voyait un pote qui n'en avait pas, on lui prêtait. On faisait ça comme si on faisait tourner un joint, en fait. On se prêtait la seringue. Les pharmaciens ne nous la délivraient pas, comme maintenant qu'ils font les kits, tout ça. Nous, à l'époque, nous, on n'avait rien. Et bien souvent, il y avait deux vaccins qui existaient, qui s'appelaient le Tétavax et le Ribomynil. Donc, dans ces vaccins, il y avait des seringues. Alors, on allait, on en achetait, mais normalement, ça valait 3 francs. Et eux, ils nous les vendaient entre 10 ou 20 francs. Donc, eux aussi, ils avaient leur business, quoi. Quelque part, ils se refaisaient sur nous, hein, notre compte, quoi. Et si on n'avait pas l'argent, eh bien, ils nous donnaient rien. Voilà.
Ils acceptaient jamais de le vendre au prix où ils auraient dû le vendre, en fait.
Il y avait des pharmacies qui, enfin, il y en a bien souvent, et les pharmacies faisaient ça.
Cette pharmacie, elle est toujours là.
Oui, elle est toujours là au coin. Oui, oui, toujours. Oui, oui, elle existe toujours. Marqué, elle s'est bien refaite, hein, avec nous. C'est une drôle d'époque, hein. C'était vraiment une drôle d'époque, hein. Les toxicos, ils n'étaient pas aidés. Et alors, on était très mal vus et on n'était pas aidés, non. Alors que maintenant, vous avez les kits. Mais enfin, j'ai du mal, moi, à croire qu'il y a encore des toxicos avec ce qu'on a vécu, nous, qu'il y a encore des gens qui prennent de l'héroïne. J'ai du mal à me dire qu'ils sont tentés par ça, quoi. C'est l'enfer, franchement, hein, au quotidien. Hein. Tu en manques toute la journée, il te faut de l'argent, tu manges pas. C'est un truc de fou. Hein. C'était d'abord la dose qui comptait, et puis après, si on pouvait, s'il restait pour manger, on mangeait. Hein. Je vous dis, on était en train de mourir. Hein.
Vous travaillez pendant cette époque-là?
Oui, moi je travaillais à l'hôpital, oui. Je travaillais à un hôpital à Marseille. Mais enfin, c'était très dur, j'étais souvent en maladie, bien sûr. Et après, au bout de quelques temps, ils m'ont dit, bon, ça serait bien que tu restes chez toi, parce que je ne suivais plus. Donc j'ai été licenciée. Mais enfin, comme on avait quand même notre famille qui était derrière nous, on ne se laissait pas aller à 100%. On essayait de se tenir propre, de... Voilà.
Ta famille te comprenait à cette époque?
Non, c'était très, très, très difficile. Non, c'était difficile. En fait, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Hein. Eux, ils sont complètement à l'opposé de toi, de la vie que tu mènes. Hein. On rigolait bien quand même, parce qu'on rencontrait tous les potes des quartiers. Soit fille et garçon, ça se passait ici. Hein. On rigolait bien quand même. Il y a des moments où on rigolait.
Ouais, parce que vous faisiez la fête, quand même.
Oui, si on veut. C'est un peu une fête morbide, hein. Bizarre. Hein.
Thank you.
donc, comment tu t'en es sortie?
Ben, en fait, moi, je m'en suis sortie parce que j'en avais marre. En tant que fille, j'en avais marre de cette vie. Donc, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes. Donc, j'étais voir un médecin qui m'a prescrit des médicaments, mais il était assez costaud. Donc, j'ai décroché chez ma mère. C'est elle qui m'a aidée. Hein. Et donc, je prenais des médicaments, buvais de l'alcool. Donc, ce mélange-là, c'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée. J'ai mis 3 ans quand même, hein. 3 ans à décrocher. Mais j'y suis bien arrivée, ça va. Le pire, c'est que dans mon quartier, après, du fait que la rue Tubano c'était fini, ça se passait plus là-bas. Il y avait beaucoup de toxicos dans mon quartier. Je me souviens, je me mettais à la fenêtre, je les voyais, mais j'arrivais à dire non, c'est fini. J'en avais marre. Hein. Je me suis dit, ou tu meurs, ou tu t'arrêtes. Hein. Et j'ai préféré m'arrêter.
Tous ces amis de jeunesse, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui?
Ben, ils sont tous partis, c'est fini, il n'y a plus personne. On doit peut-être en rester, j'ose même pas dire. Ils sont tous morts, hein. Tous les potes qu'on avait, ils sont tous morts. Ils n'ont pas dépassé 30 ans. Très peu, très très peu.
Et ton compagnon, oui. Lui, il a dépassé les 30 ans, il est toujours avec toi aujourd'hui.
Toujours, oui, oui.
Et comment il s'en est sorti, lui?
Ben, lui, pareil, sa famille. Hein. Et lui, pareil, il a fait comme moi, il a dit, il s'est dit un jour, il faut que j'arrête. Hein. On est arrivé à nos 30 ans, on a dit, bon, il faut arrêter. Ça a été difficile aussi pour lui, mais ça va, il était bien entouré, quoi. Il avait sa famille, hein, ses frères, ses sœurs. Donc, il est arrivé, comme moi. On a fait un peu pareil, tous les deux. Mais on n'était pas ensemble, hein, quand on a décroché, chacun de son côté. On se téléphonait, on s'écrivait, mais on ne se voyait pas.
Pendant combien de temps, ça?
On ne s'est pas vu pendant un an et demi. Chacun de son côté, on décrochait. Et quand on s'est revus, ça allait très bien. On s'est vus, c'est fini. Ça y est, on était libérés.
3 années pour redevenir clean. Et ensuite, ton parcours? Parce qu'il s'est écoulé 20 ans entre l'arrêt de l'héroïne et aujourd'hui.
À 30 ans, on a eu la chance, enfin, mon compagnon a eu la chance de trouver un boulot. On est parti s'installer pendant 20 ans dans les Alpes. Et puis là, ça fait 2-3 ans qu'on est redescendu sur Marseille. Enfin, moi, je suis très contente de retrouver Marseille. Parce que même qu'on était bien dans les Alpes, je ne m'y faisais pas trop. C'est assez spécial. Le 04, mais ça va, quoi. On a eu quand même des belles années en haut aussi.
Tu vis où maintenant?
Moi, je suis du côté de la Capelette, dans le 10e. Dans un petit appartement, mais je suis très bien, très très bien.
Explique-moi comment la rue Tubano a-t-elle opéré sa mue, sa rédemption? Et donc ce passage d'une rue de l'épicentre du deal d'héroïne à Marseille à aujourd'hui, comme on peut le voir, une rue calme, donc qui fait cette jonction entre le boulevard du Gommier et le cours Belzunce.
C'était un peu la honte de Belzunce, cette rue. C'était une rue qui était, malgré ce qui se passait, que ça dealait, ça fait tout s'acheter, tout se vendait, il n'y a jamais eu de contrôle, on n'y avait pas. Elle n'était pas surveillée, cette rue. Et après, il y a eu Edmond de Charleroux qui a fait ce papier là sur le Provençal en disant que la jeunesse était en train de se tuer, quoi. Les toxicomanes, ils étaient en train de mourir, personne ne les aidait. Et puis que d'un coup, ils ont fait une opération coup de poing. Les bars se sont vidés. Là, maintenant, quand je passe, je vois que les immeubles, c'est super. Les maisons, c'est super joli. Alors qu'à l'époque, c'était une rue misérable. Hein. Quand on disait la rue Tubano, c'était misérable. Et que maintenant, je vois même qu'il y a le mémorial de la Marseillaise. Je suis restée pendant bien quelques années, moi, ici, j'ai jamais vu qu'il y avait un mémorial de la Marseillaise. Hein.
Donc c'était ça, sous le mandat de Vigouroux, à la fin des années 80, donc la mairie qui rachète des immeubles, qui ferme les bars, et qui donc opère cette opération coup de poing, comme tu dis, pour cleaner la rue Tubano, qui était donc, comme tu dis, une hécatombe avec le deal, la drogue, l'héroïne, le problème aussi du sida, qui était vachement pris en compte à ce moment-là, à la fin des années 80, les consciences avaient évolué.
En plus, on ne voulait pas nous délivrer les seringues, en sachant qu'il y a cette maladie qui s'attrape par le sang, qu'on ne nous vend pas des seringues propres. Ça n'existait pas. Et les gens, quand ils étaient en manque, qu'ils étaient malades déjà du virus, bon, on n'était pas certain encore que c'était le sida, mais c'était le sida qu'on avait, que les gens avaient, et qu'on leur donnait des néocodiums pour pas qu'ils soient en manque. Mais on ne leur donnait pas une boîte, on leur vendait des boîtes en veux-tu, en voilà. Et on laissait les gens en manque, malades. Hein, voilà. Et on te disait, pars au patriarche. Pour décrocher, tu pars au patriarche. Le patriarche, c'est tu arrives, tu as tes sous, tu as tes fringues, on te prend tout. Quand tu reçois un colis, on te prend tout. Quand tu as un manque, que tu cries un peu, que mettons, la personne est un peu un cas du caractère, on la prend, on la démolit, on y met des roustes. Ils te disaient, va décrocher au patriarche. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Pour les toxicomanes, il n'y avait rien. Donc je pense que chez les, on va dire, à la mairie, ou chez les riches, ou chez les gens qui ne voyaient pas la vie, qui se sont dit, il faut faire quelque chose, parce que là, c'est vraiment... cet endroit-là, il faut vraiment l'enlever. Hein. Parce que les gens étaient vraiment en train de mourir. C'était une rue pourrie, franchement. On a tous été contaminés par le VIH. Moi, j'ai été détectée en 1985, après une prise de sang. Donc, voilà. Mais ce qu'il y a, moi, j'ai été plus résistante à d'autres. Hein. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait la ZET. Qu'on prenait à 23h, il fallait prendre une gélule d'AZT. Donc on nous faisait des tas de trucs, des ponctions lombaires, des machines, des trucs pour voir où ça venait. Voilà. Et après, il y a eu la trithérapie. Donc moi, depuis 1985, je suis suivie pour le VIH. Bon, c'est vrai que maintenant, je pense que je suis sûre d'avoir été contaminée par les seringues, parce qu'à l'époque, on n'en vendait pas. Et on se piquait avec une seringue, faisait 3, 4, voire 5 personnes. On se piquait avec la seringue du collègue, hein, du pote qui était avec nous, hein, que ce soit n'importe lequel, hein, on se piquait. Et voilà, donc depuis 1985, je suis à l'heure d'aujourd'hui en bonne santé quand même, hein, je ne peux pas dire le contraire. Je suis sous trithérapie et le traitement marche très 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 bien, très bien. Bon, il y a des contre-indications qui sont assez pénibles, assez lourdes, ces gros traitements qui sont assez pesants, mais ça va, je le supporte bien. Voilà. Heureusement qu'il y a ça. À un moment, j'y croyais plus, mais là, tout va bien. Voilà.
Ton compagnon est atteint du VIH ?
Oui, aussi. On est tous les deux, oui. Donc on est soignés tous les deux par le même médecin, qui est très bien. Et voilà. Et au départ, c'était le professeur Gallet. À l'époque, il n'y avait pratiquement que lui sur Marseille. C'était un crack de chez crack. Et il nous a sortis d'affaires plusieurs fois. On a eu l'hépatite C, qui se donnait aussi par les seringues. L'hépatite C, ça a été un très, très, très gros traitement. Ça a été très, très pénible. On était très mal en point avec ce traitement. Hein. L'interféron, c'est très très dur à supporter. Donc on a eu tous les deux, on a eu l'hépatite, qui à l'heure d'aujourd'hui est indétectable, elle n'existe plus. Et bien sûr, la trithérapie. Mais tout va bien. Alors d'aujourd'hui, tout va bien. On a une charge virale indétectable, des T4 qui sont très bien. Voilà. Après, comme je te dis, c'est les traitements qui sont lourds. Traitements qui sont un peu pénibles. Mais c'est tout.
Ton compagnon les supporte aussi bien que toi?
Aussi bien. Peut-être même mieux que moi. Lui, c'est un battant. Il n'a jamais s'apitoyé sur son sort. Tout ce qui est maladie, tout ça, il le zappe. Il vit sa vie. Il est à fond. Pour ça, c'est le top. Moi qui serais un peu plus anxieuse, un peu plus angoissée, il me donne la pêche d'en faire. Parce que je le vois tellement dire, bon ben ça, elle, je veux dire, c'est pas elle qui me fera marron, quoi, en gros, on va dire. Et je le vois tellement battant que moi, ça me donne une pêche d'en faire.
Quand t'as appris que t'étais atteinte du VIH, quelle a été ta réaction?
Ça a été la fin du monde. On aurait cru, comme dans une certaine bande dessinée, que le ciel me tombait sur la tête. Voilà. Ça a été une catastrophe. Moi, je croyais mourir. C'est pour ça que je te dis, j'aurais pas cru vivre jusqu'à mon âge. Moi, j'ai dit, ça y est, tu meurs, tu vas mourir. Je me disais, tu vas mourir, il n'y a pas de traitement. Quand vous alliez voir un docteur, quand il vous disait, on ne peut rien pour vous. Moi, je me rappelle pratiquement à une époque, tous les mois, on avait un pote qui décédait. Hein. Mais je me suis dit, et c'est là, ça aussi qui m'a donné l'envie de bien décrocher, de dire stop l'héroïne, tu ne vas pas te piquer en étant VIH. Donc fais avant, bats-toi, voilà, avance, et c'est ce que j'ai fait.
C'était quoi, toi, tes rêves d'enfant?
C'était d'être maman. Ça m'aurait plu. D'avoir plein de petits. Maintenant, avec toutes ces années, là, un peu de galère, là, maintenant j'ai envie d'être tranquille. Le pas bon, eh bien, je le zappe. Je préfère vivre qu'avec des bons trucs dans ma tête et vivre tranquille. La vie est belle, hein. Malgré ça, la vie est belle. Moi, j'ai la chance d'être encore là. Moi, je pensais pas arriver à 40 ans. J'en ai 52, donc je suis aux anges. C'est que du bon pour moi, que du bonheur. Dans tous les trucs style les ennuis de Nionnoite tous les jours, là, je veux pas en entendre parler. Non. C'est derrière moi, tout ça.
C'était Belzins en visage, une émission préparée avec la complicité de Tom Crebassa et Sarah Schreiber, avec Sébastien Gély à la réalisation. Vous pouvez retrouver le podcast de ce récit sur le site radiogrenouille.com. Belle journée sur les 3-8.